C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
J'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Mon meilleur espoir est une Indiana Jones. Imaginez-la en vadrouille, parfois là où personne n'a vraiment envie de s'attarder, à la recherche d'un trésor. Mais à la différence du personnage interprété par Harrison Ford, elle ne déniche pas les reliques ou les manuscrits anciens. Mon meilleur espoir est une collectionneuse de visages, de voix, de personnalités. Elle déniche l'humain. Son chapeau et sa capacité d'adaptation, son fouet, sa rigueur dans le travail, et son pistolet, son franc-parler. Ce qui les tient l'un comme l'autre, c'est la passion. Celle de la science et de l'histoire pour lui, et la passion absolue du cinéma pour elle. Mais si mon meilleur espoir, comme Indiana Jones, avait dû s'arrêter après avoir trouvé le Graal, ou les Graals en ce qui la concerne, l'aventure se serait arrêtée bien vite. En allant à la recherche des autres, est-ce que ce n'est pas un peu une quête de sa propre identité qu'elle mène? Finalement, après quoi le héros de Spielberg courait-il vraiment? On sait que chaque artefact sur lequel il met la main le révèle un peu à lui-même, à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue, par exemple, alors qu'il se pensait purement cartésien, il découvre la foi en Dieu. Et elle? Que dit d'elle chacun des talents qu'elle a révélés à l'écran? Quelle vérité entrevoit-elle dans les yeux d'une Mallory Vanek ou dans ceux de ses camarades du film Les Pires, de Lisa Coca et Romane Guéret? Car mon meilleur espoir, vous l'avez peut-être compris maintenant, est directrice de casting et elle s'appelle Marlène Serrour. Salut Marlène.
Salut. C'est hyper... touchant d'écouter ces mots. Merci.
Est-ce que, Marlène, la question de l'identité est une question qui se pose chez toi? Et j'ai eu l'impression, en découvrant ta playlist notamment, on en reparlera tout à l'heure, que oui, c'était un sujet chez toi, l'identité.
Petit sujet. Ouais, c'est vrai, mais c'est marrant parce que j'aurais jamais formulé de la manière dont tu l'as faite, c'est-à-dire être à la recherche comme ça de personnages, de personnes dans la vraie vie et tout, que ça puisse être aussi une quête de... qui me concerne, quoi. Mais c'est clair que l'identité, c'est un peu le cœur de toutes mes réflexions, d'où l'exil de Laurie Darmon de ma playlist, quoi. C'est tout par de là, je pense, mais parce qu'on est toujours façonné par d'où on vient, quoi.
Ouais, on en reparlera tout à l'heure, ouais, effectivement, de ta playlist. Marlène, c'est pas évident pour tout le monde de savoir ce qu'est une directrice de casting. Est-ce que, très simplement, tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie, en fait? Mais vraiment, n'aie pas peur d'être très pragmatique, quoi, vraiment pour qu'on comprenne bien ce que tu fais.
En fait, je cherche les comédiens et comédiennes, professionnels ou non professionnels, qui vont interpréter les personnages d'un film. Alors moi, je travaille essentiellement pour le cinéma, donc je reçois un scénario, il y a des personnages, il faut les trouver. Donc on va aller chercher en agence artistique et on va aller chercher évidemment dans plein d'autres sphères, selon le film, selon l'univers, selon si c'est des enfants, des ados ou des comédiens professionnels. Enfin, c'est trouver les personnes qui vont incarner les personnages du film.
Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant ?
Ça fait 10 ans.
Et comment t'es tombée là-dedans ?
Complètement par hasard. Franchement, je ne savais même pas que ça existait comme métier, quoi. Et en fait, j'ai fait un parcours assez classique à la fac. Enfin, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le cinéma. Mais en fait, j'y connaissais rien, quoi. C'est-à-dire, à part les acteurs et les réalisateurs, moi, je savais pas s'il y avait d'autres comme métier dans le cinéma. Et du coup, j'ai fait des études à la fac, donc très théorique. J'ai écrit des mémoires sur plein de cinéastes. Donc, c'est très nourrissant. Et donc je sors de là, j'ai bac plus 5, mais genre concrètement, j'ai aucune formation. C'est-à-dire que j'ai aucun métier à exercer, en fait. Donc je suis vraiment perdue dans la nature, quoi.
Mais là, tu pensais à quoi à ce moment-là? Quand tu finis tes études, tu te dis je vais enseigner ou non
Mais je me dis, je ne sais pas quoi faire de ma vie, surtout, quoi. Enfin, je suis... Donc du coup, je me dis, bon, bah, quitte à rien faire... Non, mais je vais aller vendre des fringues aux Galeries Lafayette, parce qu'en fait, quitte à pas gagner d'argent, et à... enfin, autant que je fasse quelque chose, au moins. Donc je commence à vendre ces fringues... Voilà, d'ailleurs, ça m'a plutôt plu. Enfin, je veux dire, et en même temps, aucun rapport avec mes études, donc c'était très curieux. Et en fait, un peu au même moment où je commence ce job, j'ai un pote de fac qui m'appelle et qui me dit « Ouais, je suis dans une équipe de casting, on est genre plein d'assistants, le film est trop bien, et là, ils vont chercher du renfort, ils vont chercher d'autres personnes pour assister et pour rejoindre l'équipe casting et tout, est-ce que ça te branche ?» C'est très mal payé, mais bon, c'est cool. Et moi, bah, comme je suis complètement perdue, je me dis, bah oui, à fond, j'y vais, quoi. C'est mal payé, super, allez, on y va, quoi. Et je commence, donc je rejoins cette équipe de casting, où effectivement, on est vraiment genre plein d'assistants, on est hyper nombreux. Donc je fais moitié casting là-bas et moitié au Galeries Lafayette. Et c'est là où je rencontre, en fait, Lisa Coca et Romane Guéret, qui sont les réalisatrices du film Les Pierres. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté le casting. Et c'est devenu mon métier, quoi.
Ouais. Et alors, je reviens sur Les Pires, parce que Les Pires, c'est l'histoire d'un casting aussi. Enfin, voilà. Alors, il y a une forme de mise en abîme, forcément. Comment, toi, tu t'y es pris pour caster, en fait, sur ce film?
Déjà, le casting a duré un an. Et
alors, ça, c'est très long par rapport à d'habitude?
Ouais. Okay. C'est rare de commencer un casting un an avant le tournage.
Ok.
Et du coup, en fait, c'était déjà une approche presque du territoire et une approche de... En fait, il fallait que je comprenne où je pouvais trouver ces enfants. Et donc, alors, Lise et Romane, elle savait qu'elle voulait tourner dans le nord de la France. Donc, on avait une sorte de... Voilà, on se disait, ok, ça va être la Côte d'Opale... Mais bon, en fait, la Côte d'Opale, c'est très vaste, en fait. Et donc, il fallait déjà que j'étudie un peu le territoire et que je comprenne d'où venaient ces enfants. Et ce qui donc déjà, c'est une analyse, en fait, du territoire. Et donc, c'est presque une sorte d'enquête sociologique dans un premier temps. Et en fait, ensuite, il faut se rendre sur place. Et en fait, c'est en se rendant sur place et en rencontrant... des directeurs de centres sociaux, en rencontrant des animateurs, des animatrices, des éducateurs, des éducatrices de rue, que progressivement, en fait, on affine ces zones de recherche. Et évidemment, après, on met en place des castings ouverts, où on rencontre des enfants. On a fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle des immersions, c'est-à-dire on est allé dans des établissements scolaires pour rencontrer directement les enfants, les adolescents et tout ça. Donc,
est-ce que c'est ça qu'on appelle le casting sauvage?
Oui, en partie. C'est pas que ça, le casting sauvage, parce que ça peut être très vaste. En vrai, un casting sauvage, ça peut être aussi un parent qui est tombé sur une annonce accrochée dans une boulangerie et qui va envoyer la photo de son enfant. Et cet enfant n'a jamais joué de sa vie. Et finalement, on va le convoquer à un casting. Et... En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de formation... Et qui, a priori, n'a jamais joué de sa vie, quoi.
Ça t'est déjà arrivé, dans la vie de tous les jours, comme ça, de t'arrêter sur un visage qui te percute et de te présenter comme directrice de casting?
Franchement, c'est très rare. Il y a un peu un truc de fantasme où, en effet, on se dit que...
c'est complètement un fantasme.
Ouais, on est tout le temps à l'affût des visages et tout. Sauf que... déjà, le casting sauvage, c'est beaucoup d'organisation et c'est beaucoup de préparation. C'est pas genre au pif, dans la rue, on tombe sur la nouvelle star de demain. En général, c'est beaucoup de travail pour tomber sur la bonne personne. C'est très rare de tomber par hasard sur quelqu'un dans la rue, ça arrive évidemment. Et donc, en vrai, quand je suis pas dans des endroits spécifiques qui concernent l'univers du film ou qui concernent le personnage que je recherche, quand je suis pas dans ces endroits-là, ça veut dire que je suis dans ma vie de tous les jours et en vrai, je déconnecte un peu mon cerveau.
Ouais, t'es pas en veille, quoi.
Non, par contre, je pense que je regarde les visages ou les gens sans doute d'une certaine manière qui effectivement est, peut être plus appuyée ou plus où je vais me raconter une histoire quand je croise quelqu'un, mais je vais pas forcément aller jusqu'à demander le contact de la personne, me présenter comme directrice de casting. Moi, j'aime bien être une petite souris et être invisible, en vrai. Mon rêve absolu, c'est d'avoir la cape d'Harry Potter et d'aller chez les gens et d'observer les gens et de ne pas exister. Mais par contre, d'essayer de comprendre ce qui se passe devant moi, quoi.
Tu dirais que c'est quoi les qualités principales d'un directeur ou d'une directrice de casting ?
Il y en a plein qui sont nécessaires, mais je pense qu'il faut quand même être ouvert, curieux. Et après, je crois qu'il y a aussi... il faut réussir quand même à comprendre l'univers d'un réalisateur. C'est pas que des qualités qui... comment dire, humaines, ou genre effectivement, ça peut aider d'avoir la tchatche, ça peut aider d'avoir un regard ou de voir les visages d'une certaine façon et tout, bien sûr. Mais c'est aussi comprendre un univers et comprendre ce qu'on attend d'un rôle, comprendre ce qu'on attend d'une scène. Donc je pense que c'est aussi une forme de sensibilité quand même artistique qui se raccorde ou pas avec le réalisateur ou la réalisatrice avec laquelle on travaille, en fait. Mmh. D'ailleurs, je pense que selon les directeurs, directrices de casting, on peut avoir des castings très différents avec un même scénario. Ou bien un réalisateur ou réalisatrice va choisir quelqu'un parce que, on va dire, l'approche ou le regard du directeur ou directrice de casting le touche ou lui parle. Donc il y a aussi un truc à fabriquer avec la personne qui fait le film, quoi.
En parlant un peu avec des gens qui ont travaillé avec toi, on m'a dit de toi que tu étais un peu comme un caméléon. C'est ce que tu décris là, en fait. C'est cette capacité d'adaptation à épouser le regard... de l'artiste, mais du coup, quand tu réussis à trouver des actrices ou des acteurs, toi, tu proposes et la réal et le réal valide. C'est comme ça que ça se passe ou c'est OK que c'est toi qui vas chapeauter ça de A à Z et t'as pas d'autorisation à demander, en fait?
Non, c'est toujours... Enfin, en tout cas, sur les films sur lesquels je travaille, qui sont quand même plutôt du... On est plutôt dans du cinéma d'auteur, donc souvent, c'est des réalisateurs qui ont écrit le script. C'est vraiment son film. Et donc, c'est l'histoire qu'il porte depuis des années, c'est des personnages avec lesquels il vit depuis des années. Donc, moi, je suis au service d'un réalisateur et ou d'une réalisatrice, et donc je suis aussi au service d'une histoire. Et après, évidemment, je pense que c'est intéressant si parfois on fait des pas de côté, ça arrive, bien sûr. Et en effet, en tout cas, c'est sûr, ce qui est intéressant, c'est de pas forcément coller exactement à ce qui est écrit, mais oui, on peut proposer des choses différentes. En tout cas, c'est toujours une interprétation de quelque chose. Mais quand même toujours en fonction d'une... Toujours en ayant en tête l'univers du film, quoi.
Ça t'est déjà arrivé qu'on ne te suive pas ?
En général, il y a quand même des évidences, mais c'est arrivé qu'il y ait parfois des doutes, en tout cas sur... oui, ça arrive qu'il y ait des doutes. Et parfois, pour moi, c'est hyper limpide, moins pour le réalisateur, ou à l'inverse, c'est hyper limpide pour le réalisateur, et moi, je ne vois pas encore complètement. Donc parfois, c'est un truc de timing. Moi, je me souviens, j'ai fait un film, je ne comprenais pas sur le moment pourquoi c'était telle personne, son choix, pour tel rôle. Et en fait, j'ai capté plus tard, par un détail. Donc parfois on capte plus tard, et en vrai c'est dur d'être dans la tête d'un réalisateur. Mmh.
Alors tu travailles particulièrement avec des plus jeunes, avec des enfants ou des adolescents, ou c'est vrai parce que ça te plaît, ou c'est le hasard qui t'a amené à faire ça, en fait?
Non, c'est un peu le hasard. Après, je fais un peu de tout, hein. En vrai, je fais aussi bien du casting adulte, professionnel. Je vois des comédiens de la comédie française comme des gamins en maison de quartier, quoi. Après, j'aime bien le côté vadrouille, quand même. C'est vrai que Caméléon, c'est vraiment un truc qui me poursuit un peu, quoi. Mais c'est bien et pas bien, quoi.
Pourquoi pas bien ?
Bah, je sais pas, c'est bizarre d'être caméléon, en vrai. Hein.
Mais ça veut dire que tu renonces un peu à toi ?
Ben...
À ton identité.
Oups. Bah, ouais, je pense que quand même, il y a un truc un peu où vouloir se fondre dans un milieu, quoi. C'est particulier, hein. Que ce soit... Parce que c'est vrai que parfois, j'oscille vraiment dans des milieux très différents, quand même, de par le métier que je fais et même de par les gens que je fréquente et tout, quoi. C'est bizarre, hein. Un peu cette sensation d'avoir le cul entre deux chaises parfois. Ce qui me va bien, puisque je viens de banlieue, et en fait, c'était un peu ça déjà, quoi.
De quel Orient nous parle-t-elle? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie. Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui pousse en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle quand elle évoque ses grossesses? Quatre bambins providentiels, élevés presque à l'aveuglette. Ses yeux bleu vert n'ont pas encore quitté l'Égypte de sa vie. C'est à jamais là-bas que dort la paix dont elle se nourrit. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit que poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle?
Quel Orient nous parle-t-elle?
La jolie dame au souvenir,
la jolie dame au souvenir,
qui a dû pardonner au ciel de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent,
loin sur un autre continent,
les rituels qu'on met des années à adopter, oui, mais pourtant ce fut le prix de sa liberté. Les photos ont vieilli, le noir et blanc s'épuise, mais son air oriental est demeuré intact. Je la regarde si belle, petite et mystérieuse. Elle est la mère de ma mère, elle est mon enfance heureuse. Son accent comme un cri témoigne au temps qui passe qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme. Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière, l'exil.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Alors justement, c'est le moment. C'est le moment de parler de cette playlist. Tu veux bien nous dire un petit peu ce que tu as choisi et pourquoi?
Alors j'ai mis l'exil, c'est vrai que je l'ai mis d'ailleurs un peu en last minute. Je me suis dit mais attends, pourquoi je ne lui ai pas donné cette chanson? Laurie Darmon, et franchement, trop belle chanson que j'ai découverte il y a genre un an. Et en fait, c'est une chanson sur sa grand-mère qui donc a vécu en Égypte et qui a dû partir d'Égypte. Et c'est l'histoire de ma grand-mère et de ma mère. Donc cette chanson, elle me bouleverse. Je la trouve magnifique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment... dès qu'on l'écoute avec ma mère, on pleure, quoi.
Première écoute, j'ai pleuré. Je te l'ai dit. Enfin, je t'ai envoyé un message direct.
Tout part de là, hein, franchement. La détermination, en fait. Donc, pour travailler dans le cinéma, il faut le vouloir quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de chance au début, mais pour vraiment faire son réseau, gagner sa vie, trouver son métier, gagner la confiance des gens, c'est du taf, quoi. Et je crois que ça, c'est la détermination, c'est la force de travail, et donc ça, c'est des trucs d'éducation et de valeur, et qui sont forcément liés à une histoire, quoi. Et ma grand-mère, quand elle est chassée d'Égypte, elle a mon âge, quoi. Et je me dis, mais ok, elle a mon âge, elle a deux enfants, ils partent avec une valise pour toute la famille, et il faut tout refaire. Tu repars de zéro. Moi, si on me dit là, aujourd'hui, tu repars de zéro, waouh, costaud, quoi. Et en fait, ensuite, petite banlieusarde de Diams, parce que Diams, bah, impossible de faire une playlist sans Diams, quoi. Franchement, l'une de mes artistes préférées, je l'aime trop. C'est-à-dire que ses textes, ils me bouleversent, elle a une plume incroyable. Franchement, aujourd'hui... je retrouve pas une plume comme ça, quoi. Et quand je réécoute ses chansons, je me dis, mais... Moi, je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est du génie, quoi, de parler autant aux gens.
Elle te parle, cette chanson-là?
Ah ouais, mais toutes. En vrai, c'est une galère de trouver la bonne chanson de Diams. Et dans celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle de la fierté de sa mère.
Ah!
Ouais. Donc ça, j'avoue... ouais, elle parle de la fierté de sa mère, que pour elle, c'est hyper important d'accomplir tout ce qu'elle a accompli aussi. Pour montrer à sa mère, regarde, j'ai réussi à faire des trucs.
Ça, ça fait écho chez toi ?
Ouais, grave. Carrément. Enfin, franchement, c'est même... Oui, c'est le goal ultime, quoi. Franchement, si tes parents ils sont fiers de toi, c'est bon. Tout va bien. Puis c'est touchant, parce qu'elle parle aussi de... À quel point, effectivement, elle est heureuse de son succès, mais que les stars, ça dure pas.
Il y a une grande lucidité, je trouve, dans ce texte.
Ouais, elle sait que c'est éphémère et elle sait qu'en vrai... Et ce qui est beau, c'est qu'on capte déjà qu'en fait, elle n'est pas tellement sensible à ce truc de rang de star. Mais c'est pas ça, en fait, ce qui compte pour elle à ce moment-là. Bah, c'est ce qu'elle dit. Ce qui compte, ça va être bah, la reconnaissance de sa mère, ça c'est sûr. Mais c'est aussi... elle voit toujours plus loin, en fait. Il y a un truc... comme une désillusion, quoi, déjà, qui est déjà là. C'est-à-dire, oui, là, c'est cool, mais en vrai... Je sais déjà que peut-être dans 5 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, il y a un truc de... C'est jamais acquis, déjà. Et même si c'est acquis, est-ce que ça me rend vraiment heureuse ? Parfois, on peut tout avoir et... Enfin, c'est terrible, d'ailleurs, hein, de se dire qu'il y a des gens qui ont tout et en fait, ils n'arrivent pas à être heureux. Donc, et elle, c'est ce qu'elle raconte. Elle a tout, elle fait le tour du monde. Tout marche pour elle, mais ça ne va pas, en fait.
Toi aussi, tu viens de banlieue, Marie ? Ouais. Ouais.
Mais alors, oui, classe moyenne. Et d'ailleurs, c'est une banlieue dont on parle pas beaucoup, en fait, au cinéma, qui est peu représentée. Et donc là, t'as vu, je te fais un petit switch sur l'axe majeur de Parawan. Parce que, évidemment, donc j'adore ce film, La naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Je le vois, j'ai 17 ans, et je me dis, mais c'est un truc de fou. Genre, elle filme à Cergy, et en plus, la réalisatrice vient de Cergy. Et donc là, ça me... Alors que moi, à ce moment-là, donc je suis dans ma banlieue, résidence pavillonnaire, calme. Et moi, mon goal absolu, évidemment, c'est vraiment la capitale, quoi. Enfin, c'est-à-dire, moi, c'est tout ce qui brille, c'est la capitale, quoi. Et je vois ce film et je me dis, ah, mais en fait, c'est peut-être cool de vivre là où je vis. Je me dis, il se passe des trucs. Et ouais, ce film me bouleverse parce que déjà, ça filme ma ville, quoi. Donc, je suis hallucinée de ça. Bon, alors, Romère l'avait fait avant, quand même. Mais elle filme l'adolescent. C'est une réalisatrice qui, à l'époque, voilà, une jeune réalisatrice qui sort de la Fémis, qui parle en plus d'une histoire et d'amour et d'amitié. Donc, en fait, tout d'un coup, tout me parle dans ce film. Et en fait, l'axe majeur, et donc Parawan, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi, signe la BO donc, de ce film. Et ce titre s'appelle L'axe majeur. Et en fait, l'axe majeur, c'est vraiment un axe qui existe à Cergy. En fait, c'est un laser vert qui traverse le ciel et en fait qui part d'une place à Cergy-Saint-Christophe et qui est propulsé en direction de la capitale, des tours de la Défense. On voit au loin les tours de la Défense et Paris. On devine Paris. Donc cet axe, c'est vraiment la banlieue vers Paris. C'est-à-dire que cette architecture, elle a été conçue en fonction de la capitale. Ce que je trouve complètement dingue, quoi. Donc pour moi, axe majeur résume complètement mon état d'esprit à ce moment-là, où je n'ai qu'une obsession, c'est de partir et de vivre à Paris.
Mais je crois que c'est aussi le titre de ton court-métrage, parce que tu as réalisé aussi.
Ouais, on va dire un galop d'essai, quoi.
Et t'as aimé ?
Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré.
Tu le referais pour... Tu t'aimerais réaliser un long, disons, simplement, tu vois ?
Franchement, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que le casting m'apporte un épanouissement hyper fort. Et c'est agréable aussi dans la vie de se sentir à sa place. Et ça, c'est vraiment le cas en casting. Mais effectivement, il y a un désir peut-être d'explorer autre chose. Et notamment, oui, pourquoi pas raconter des histoires à travers des films. Mais du coup, là, c'est sortir complètement de ma zone de confort. Mais je pense que s'il y a ce désir-là, en vrai, ça finira toujours par me rattraper. C'est ça qui est terrible avec le... Enfin, même quand c'est galère, en fait, si c'est viscéral, t'auras beau faire ce que tu veux, ça va toujours te rattraper, quoi.
Et dernier titre, du coup...
Ouais, Yom, Journey of Life. Bah, trop beau. Musique klezmer. Un peu, c'est un peu chialade, hein, quand même, cette playlist. Franchement, elle est un peu trop deep. J'aurais dû mettre un truc un peu fun... C'est pas fun, hein. Non, mais en fait, Yom, je l'ai découvert grâce à ma mère qui m'a emmené le voir. C'est du sax. Alors, non, c'est de la clarinette qu'il fait dans une chapelle. Et dans cette chapelle, il y avait cette musique comme ça qui résonnait. Et genre, j'ai pleuré, quoi. Et c'est rare de pleurer en concert. Et j'ai pleuré. Et ouais, c'est. Et j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça. Hyper puissant, mélancolique. Et en même temps, il y a un truc très naïf aussi dans ce qu'il fait. Enfin, ouais, ça me parle à fond.
Alors, Marlène, c'est quoi un casting qui se passe bien ?
Un casting qui se passe bien, c'est qu'on a la sensation d'avoir bien travaillé avec le comédien ou la comédienne, qu'on a pu emmener aussi loin qu'on pouvait la scène dans le temps imparti. Et même de se dire, je vais pouvoir présenter ce comédien ou cette comédienne au réalisateur à la fin de journée.
Et un casting qui se passe mal, ça t'est déjà arrivé ?
Oui, ça arrive. Bah, un casting qui se passe mal, je dirais que c'est par exemple une incompréhension avec le comédien qu'on rencontre ou une résistance un peu dans le jeu. Et en même temps, franchement, je comprends, c'est tellement difficile à chaque fois de devoir... Enfin, l'exercice du casting, il est hyper galère, quoi. C'est quand même une performance à donner dans un temps hyper court. Et ouais, il peut y avoir du stress de la part du comédien, il peut y avoir même de la panique, de l'incompréhension. Et en fait, il suffit qu'on dise une petite chose ou qu'on donne une indication pour qu'en fait, ça puisse être douloureux, en fait, pour le comédien ou la comédienne qui se dit « Merde, en fait, j'ai rien compris à la scène » ou... Pourquoi j'ai pas fait ça directement ? Donc c'est... Mais c'est pour ça que moi, franchement, à chaque fois, je leur dis toujours, en vrai, on a le même objectif. Moi, mon objectif, c'est de trouver le comédien pour le rôle. Donc si, en fin de journée, je me dis que j'ai rencontré des super comédiens et que peut-être j'ai trouvé le rôle, bah, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Et le comédien en face, bon, a priori, s'il est là, c'est qu'il... Il y a des chances pour qu'il ait envie aussi que ça marche. Donc, on a le même objectif. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien. Il vaut mieux que ce soit dans l'écoute, la compréhension, le dialogue. On n'est pas là pour que ce soit parfait. Par contre, pour donner le max. Et après, on verra.
Qu'est-ce qui va te séduire particulièrement chez un interprète ?
C'est quand il ouvre. C'est difficile à expliquer. Ouais, c'est quand il ouvre, en fait, une part de lui, peut-être, ou bien... En tout cas, qu'il y a, on va dire, une sincérité, une vérité qui émerge comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout d'un coup, la scène qu'on est en train de faire, et bien tout d'un coup, en fait, je vais être émue, ou je vais être saisie, ou je vais être étonnée. Et en fait, pour arriver à ça, souvent, ça demande et de la technique, mêlée à un lâcher-prise. Alors parfois, il n'y a pas les deux éléments, mais en tout cas, quand il y a un de ces deux éléments, c'est... Mais je crois que ce qui me touche le plus quand même, c'est ce lâcher-prise-là, qui permet vraiment de... Bah, en fait, d'entrevoir une singularité, c'est-à-dire ce qui va faire que le comédien ou la comédienne peut avoir le rôle, c'est que tout d'un coup... personne d'autre n'aurait pu le faire comme lui, ou bien il y a une interprétation en fait d'une émotion, une interprétation d'un moment ou d'une situation qui fait que c'est un peu unique, et du coup on se dit ah, c'est intéressant, c'est singulier. Donc, et peut-être même ça déplace un peu ce que j'aurais pu imaginer ou ce que j'aurais pu projeter.
C'est inattendu, quoi.
Oui. C'est sûr, quand ça déplace un peu ce qu'on attend et que ça nous touche.
Oui, voilà.
C'est hyper beau.
Mm-hmm. Et quel est l'impair à ne pas commettre quand t'es actrice ou acteur et que tu te présentes à un casting, vraiment, le truc qui va te gonfler ou vraiment qui va te laisser, mais de marbre, quoi.
Il y a plein de trucs qui m'agacent.
Genre le retard, je dis n'importe quoi.
Ah non, le retard, c'est pas grave.
Ah, ok.
Moi, je suis tout le temps en retard. Donc,
Enfin,
c'est pas grave, faut pas que je dise ça parce que.
L'interprète, il connaît pas une ligne de son texte.
Bah,
quand il y en a un.
Non, par contre, j'aime bien quand le travail, il est fait, quoi.
Donc ça,
d'arriver les mains dans les poches.
Ça, c'est
non.
Pas bon.
Bah non, faut pas arriver les mains dans les poches. Donc il faut évidemment se renseigner sur tout, quoi. Il n'y a pas trop de bonnes raisons de ne pas être renseigné. Parce qu'on peut toujours rappeler la directrice de casting si on veut, demander à son agent. Non, mais moi, en fait, ce qui me tend le plus,
ouais,
c'est vraiment ce truc où je sens qu'on ne peut pas travailler et qu'il y a de l'ego dans le travail. Et ça, je le comprends. Et puis parfois, franchement, il y a des journées où moi, je comprends qu'on n'ait pas envie d'avoir telle réflexion. Sans que ce soit des réflexions, mais juste d'être dans une position où on se dit « Ok, ça va encore merder. » Enfin, en vrai, je comprends que c'est pas agréable. Mais malheureusement, moi, à ma position, c'est sûr que ce qui va me tendre, c'est... quand je sens qu'il n'y a pas une souplesse et quand vraiment on met l'ego complètement de côté, quoi. Et qu'on peut se remettre en question, mais dans le bon sens et dans le sens du travail, surtout. Voilà.
Alors moi, je te propose d'ouvrir notre discussion avec la partie des cartes de couleurs.
Yes.
Donc, tu m'as dit que tu préférais tirer au sort.
Ouais.
Voilà, donc je décris. Donc, toutes les petites cartes sont dans un sac, voilà, de tissu en satin rouge. Et donc, Marlène va plonger sa main dedans et elle va tirer au hasard. Mais tu nous diras quelle couleur tu tires. Et...
Ça va être très long. J'aime. Allez. Orange. J'ai peur. Oh ! Bah d'accord. Corps.
Le corps.
Ça me donne envie de rire. Corps, bah... Là, je dis ce qui me passe par la tête.
Ouais.
En fait, je crois qu'on est en paix avec son corps quand on n'y pense plus. Donc moi, si je dois parler de moi, en tout cas, je pense que j'y pense encore un peu trop. Et que peut-être que je serai complètement en paix le jour où je n'y pense plus du tout.
Tu l'aimes ? Ton corps ?
Ouais. Enfin, en fait, je vois tous ses défauts. Mais en fait, je suis hyper OK avec ces défauts-là. Mais c'est comme voir les défauts chez les gens qu'on aime. On les aime profondément, ils sont importants pour nous. Mais il y a forcément des trucs qui nous suragacent. Des trucs qu'on supporte pas. Chez nos amis proches, chez la famille. Bah, moi, je crois que le corps, c'est un peu pareil. Des trucs, je me dis, mais franchement, si seulement j'avais genre 20 cm de plus déjà. Franchement, quelle est cette taille ridiculement petite? Donc oui, enfin clairement, tu me dis ce que je veux changer, je te fais la liste là en 3 secondes. Et en même temps, en vrai, je me dis que j'ai de la chance, quoi. J'ai un corps qui fonctionne. Non, mais c'est basique, mais franchement, moi, mon corps, il fonctionne. Et je me dis, vas-y, on a de la chance, on peut rien dire. Tant qu'il y a la santé, en vrai, tu peux rien dire.
Toi, t'as l'habitude d'observer le corps des autres.
Ouais.
Tu les as même mis en scène, puisque t'as tourné.
Ouais.
Est-ce que toi, tu l'as déjà mis en scène, ton corps? T'as déjà fait genre du théâtre ou...
Ah oui, j'ai fait beaucoup de théâtre.
Ah.
J'ai toujours fait... En fait, quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'impro et j'ai fait du théâtre genre de mes 6 ans à mes 15-16 ans. Ouais. Non, mais j'ai... Alors en fait, mon métier, par contre, ce qui n'est pas un hasard complet, c'est qu'il y a un amour du jeu absolu. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé jouer. Moi, j'ai jamais voulu jouer, c'est-à-dire que moi, je ne veux absolument pas être comédienne. Mais il y a cet amour du jeu, de recréer les scènes, de faire en sorte que la scène, elle existe et qu'on y croit. Et ça, c'est vraiment... pour moi, c'est d'ailleurs les meilleurs moments de casting dans mon métier, c'est les moments où on est en salle de casting et on essaye vraiment de faire en sorte que cette scène-là, elle marche. Et ça, c'est un... Ouais, c'est un kiff absolu, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que les corps... bah, c'est toujours intéressant hein, de voir les corps. Et puis les corps, ils évoluent énormément aussi au long d'une vie. Parfois, on peut prendre du poids, parfois, on en perd beaucoup. Je pense qu'il faut arrêter de trop se regarder, regarder les photos là, sur Insta et tout. Franchement, moi, je vois trop de personnes autour de moi qui se stressent trop par rapport à ça. Et surtout les femmes, quoi. Avec qui commencent à avoir des enfants, des grossesses et tout. Et moi, parfois, j'ai envie de me dire, mais moi, j'ai envie de kiffer ma soirée, je vais bouffer une pizza, quoi, et ça va bien se passer, quoi. Non, mais tu vois, j'ai pas envie de passer ma soirée, en fait, à... En fait, je vais être triste. Je vais quoi? Je vais manger mes carottes râpées et en fait, je vais être triste.
Alors, quand même, il faut quand même que je dise aux personnes qui nous écoutent que, quand même, l'un des premiers points d'accroche entre nous deux, ça a été quand même la nourriture, quasiment,
ah bah ouais,
dès que je suis arrivée chez toi.
Mais en
voilà,
fait...
Donc, il faut que les gens sachent qu'on se prend un apéro fort sympathique, quand même, pendant qu'on fait cette émission.
Trop important, la nourriture. Après, il faut... voilà, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans quelque chose de, quand même, mesuré, tempéré, mais jamais enlever le plaisir, quoi.
Alors, on m'a quand même dit que...
Vas-y, balance, parce que là, je sens que... Non, mais j'avoue, la bouffe, je pourrais en parler pendant... Enfin, il faudrait faire un autre podcast,
quasiment
carrément.
À chaque fin de repas, tu dis « Oh, j'ai trop mangé !»
Ah, ça, c'est... Je sais qui a dit ça. J'avoue, c'est abusé. J'avoue, ça, je sais qui a dit ça. Bah, franchement, je pense que c'est le truc qu'elles ont le plus détesté chez moi, Lise et Romane, c'est que je dis ça, mais genre tout le temps, quoi. Bah, c'est vrai que, bah, j'avoue, je dis qu'il faut être mesuré et tout, mais en fait, je suis trop pas mesurée. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis trop... Je dis n'importe quoi. En fait, depuis le début, je dis n'importe quoi. Non, j'avoue, cata. Bah, c'est-à-dire que je peux manger hyper vite beaucoup, quoi. Tu vois,
genre...
Ouais.
Ok. Bon, tout ça est parti du corps. Ok. Tu veux passer à une autre carte?
Allez. Tu vois, je me force à pas regarder. Rouge.
Ah, c'est la carte spéciale. Ah,
j'ai peur.
Elle a deux faces. Tu choisis ce que tu veux ou si tu veux faire les deux.
Ah. Ah. Nice. Donc, il y a « Quelle question aimerais-tu me poser ?» et l'autre, c'est « Quelle question aimerais-tu que l'on te pose ?» Donc, la question que j'aimerais bien te poser, c'est « D'où viens-tu ?»
Alors, d'où je viens géographiquement ou... Géographiquement
Oui, mais du coup, ça peut être au sens large.
Genre
origines.
Mes parents et tout, ok. Ouais. Alors, moi, j'ai une maman qui est née en Algérie.
Ah.
Voilà. Et un papa qui est né dans le Limousin. Genre, deux mondes qui se rencontrent, qui n'auraient pas dû se rencontrer. Et mes parents se sont rencontrés en Allemagne. Et du coup, je suis née en Allemagne. Et je ne parle pas un mot d'allemand. Je tiens quand même à le préciser. Et j'ai longtemps vécu dans le sud-est. Mais je ne me sens pas du tout du sud-est de la France. Pas du tout. Donc, tu vois, on parlait de l'identité. Bah, chez moi aussi, l'identité, c'est un grand sujet. Les racines, enfin, tu vois, l'exil de ta grand-mère. Bah, ma mère, elle a fui l'Algérie.
Et elle n'y est jamais retournée.
À la fin
non
de
plus.
La guerre, elle n'y est jamais retournée. Et c'est un sujet qui est encore très, très, très douloureux.
Ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait de son héritage aussi.
Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te demande ?
Non, mais j'ai envie de dire un truc hyper basique.
Ok.
Non, mais en fait, la vraie question que je souhaite qu'on me pose, si je réfléchis le truc un peu plus largement, c'est de manière générale, c'est est-ce que ça va ? C'est-à-dire, moi, je m'en fous de raconter ce que je fais au boulot. Et je trouve qu'on perd ça un peu dans la relation avec les gens. Que ce soit un entourage proche ou moins proche, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, c'est pas très intéressant pour moi de parler du travail, de parler ce que je fais dans la semaine. Enfin, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, moi, je m'en fous de parler de ça. Ça ne me nourrit pas, ça va pas être très intéressant pour moi de raconter ces trucs-là. Par contre, de se demander, tiens, est-ce que t'as été traversé par des émotions particulières cette semaine ou aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens puissante en ce moment ? Ou est-ce que tu te sens vulnérable ? Ou est-ce que tu te sens puissante et vulnérable ? Enfin, en fait, c'est par quoi on est traversé ? À des moments un peu précis de nos vies. Moi, quand je vois une amie... Bon, bah oui, elle peut me raconter si elle veut pendant 10 minutes, bon, c'est 2-3 trucs de boulot et d'appart si elle a envie. Mais en vrai, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment elle se sent, savoir ce qui la traverse en ce moment, est-ce qu'elle elle se sent alignée ou est-ce que. Et d'ailleurs, que ce soit dans un truc ultra positif ou un peu moins positif. C'est-à-dire que moi, je suis hyper émue si on me dit franchement, je me sens alignée comme jamais. Et c'est un bonheur et c'est une joie et je chéris ce moment-là. Vraiment, j'essaie de m'appliquer un truc. En fait, c'est un peu marrant parce que moi, je suis pas croyante, mais parfois, j'ai l'impression de réfléchir comme une croyante. Enfin, en tout cas, le discours des croyants peut vachement me parler. Et vraiment, chaque matin, je me lève et je me dis, bah, c'est une chance inouïe. Je me lève, mon corps fonctionne, ma tête fonctionne, et c'est magnifique. Et il faut que j'en profite parce que parfois, on se lève. Et on peut avoir, enfin en tout cas je parle pour moi, mais moi parfois je peux être stressée, je peux avoir de la nervosité ou juste être de mauvaise humeur parce que tu te lèves du mauvais pied. Et en fait je déteste quand j'ai ces trucs-là parce que je me dis je suis en train de gâcher là. Même si c'est une heure, mais là t'as gâché une heure, c'est pourri quoi. Donc vas-y chéris tout ce que tu as quoi. Chaque seconde, chaque minute, chaque journée. Parce qu'en vrai demain, moi je me dis toujours tout peut s'effondrer tout le temps. On sait pas. Donc il faut chérir les moments qu'on a. Il faut chérir les personnes qu'on a. Et au maximum, évidemment, c'est difficile, mais en tout cas, c'est toujours un objectif que j'ai. Voilà, en tout cas, c'est vraiment l'une des questions qui, moi, m'intéresse le plus. En fait, j'aime bien, après, la superficialité. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux adorer les soirées un peu mondaines, où tout d'un coup, c'est hyper rigolo de parler du costard que tu portes. Et même, ça me fait du bien. Enfin, c'est-à-dire, j'ai vraiment besoin de ce truc... Ou parfois il faut absolument que tout soit léger et superficiel. Et ça, ça donne du souffle aussi.
Et dans le cinéma, c'est pareil ? Dans les films que tu regardes ? T'as ouais, besoin grave. De ça aussi ?
Ah mais à fond. À fond. Moi, je vais voir des grosses comédies et tout. Parfois, je me dis, non, je peux pas voir ce film-là, trop prise de tête. Ah ouais, à fond. Bah, en fait, c'est comme mon rapport au cinéma. C'est-à-dire que j'ai tout autant besoin d'être vraiment dans la réflexion, dans la puissance, dans des trucs hyper deep qui me transportent, qui me bouleversent, qui vont même changer ma vie parfois. En tout cas, changer parfois mon regard sur les choses, tout autant que j'ai juste besoin de me vider la tête, de prendre du plaisir, de me divertir. Et d'ailleurs, moi, j'admire ceux qui savent faire des films qui sont des bons divertissements. C'est une prouesse aussi. Hein. Donc j'adore la futilité, mais parfois, je trouve que dans les rapports, en tout cas, un peu entre les gens, bah, moi, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, ouais, c'est hyper rare que je demande vraiment ce que fait la personne dans la vie ou sur quel projet bosse la personne. Ou sinon, je le glisse vraiment hyper rapidement parce qu'en fait, il faut forcément trouver une phrase d'accroche. Mais en vrai, la réponse ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse, oui, bon, ok, elle fait tel truc. Mais ce qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est...
C'est pas comme ça que tu auras l'impression de connaître cette personne.
Bah, c'est pas ça qui va me toucher, en tout cas. Ou qui va me donner envie de mieux connaître la personne. Voilà, réponse hyper longue.
Petite banlieusarde, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la MAF, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort. Ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes, fasciné par Manny, Ginger et Sam. Moi c'est mon monde et je ne suis pas un capard. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. Je rêve d'être né quelque part en fait. Merde, je me perds, métissé, je reste cul entre deux chaises. Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste? Qu'ai-je fait pour qu'on me teste? Qu'ai-je fait pour qu'on me blesse? Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir. Ex, petite fille invisible, accroupie dans un coin de la cuisine, l'oreille déforée par la rime, je la foulais ma vie de rêve. Loin de la fille de merde de ma mère, pleurant sous les rappels du système. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le titre, le son et les chiffres. Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume, rêvant d'une vie plus qu'alléchante. Alléchante, ta putain de peine et que les gens la ressentent. Car les gens me ressemblent, dans le fond les gens saignent. Je le sais, dans le fond les gens s'aiment. Y'a du mal-être dans l'air. On m'a prise pour une merde, on m'a jugé sur mon paraître et ma verve. Mais derrière mes fautes de grammaire, y'avait de la rage. Messieurs, mesdames, je vous le jure, j'avais des tubes dans mon cartable. J'ai vite compris qu'on me prenait pour une conne, autant mes profs que mes potes, une petite blanche dans le hip-hop. Alors je m'exprime, mais je reste sur la défensive. Depuis que j'ai rencontré l'amour avec du sang plein les gencives. Alors ouais, je vends des disques, ouais j'ai de la thune. Mais j'ai ces putains de cicatrices qui me perturbent. Rien à foutre d'être une star, d'attendre que le temps passe, elles s'éteignent les stars. Un jour ou l'autre on les remplace. Moi je veux du long terme, soyons clairs. Tous ces putains de disques d'or ne me rendront pas mon père. Mais je les aime, toutes ces unes de magazine. Car pour une fois dans sa vie, ma mère est fière de sa gamine. Ma mère je l'aime en mourir, mais je sais pas lui dire. Alors je lui dédie des titres sur mes disques, je sais pas. Me blottir dans ses bras, j'aimerais, mais j'y arrive pas, c'est trop rare et ça se fait pas, man. Tu sais, aujourd'hui je suis pas guéri, malgré ses rimes, elle est à toi, ma victoire de la musique, man. T'as porté le monde sur tes épaules pour ta môme. Repose-toi, je m'occupe de ton trône. À toutes ces mères qui en bavent jour après jour, une petite banlieusarde vous adresse tout son amour. Méditerranéenne, sans la famille c'est plus la même. Chez nous c'est beau comme on s'aime, et le respect c'est dans les chaînes. Je reste jeune et insouciante, je joue avec la vie. J'aime la nicotine et j'aime Paris la nuit, ouais. Y'a les kebabs, les troquets, les bois. De l'autre côté y'a les armes, la coke et les femmes. Moi, j'ai pas besoin d'en fait, ni de ta poudre dans le zen. Je reste de celle qui reste saine. Que je le veuille ou non, je suis qu'une petite banlieusarde. Ça s'entend quand je parle, ça se devine quand je me sape. Mais je suis fier de pouvoir régler l'addition. Étonné de voir ma tête à la télé chez Ardisson. Je reste une monde, moi. Je ne rêvais que de freestyle, de déchirer le mic, mais pas de me voir dans le journal, non. Je voulais monter sur scène parce que j'aimais le show, parce que j'aimais les woyoy. Adolescent, je n'avais que ma chambre pour rêver d'avoir la chance que les gens un jour me chantent. Je rappais vite, je rappais grave, je rappais fort. Et puis après, c'était le speed pour ne pas rater les transports. RERB, zone 5 Orsayville, bus 03, direction Carrefour les Ulysses. Durant des années, je n'ai fait que des allers-retours. Crois-moi, t'es très loin du move quand t'habites à mon détour. Je regrette rien, j'avais pas ma place aux Beaux-Arts. Et puis je n'aurais pas eu la chance de rencontrer Black Mozart. J'oublie rien de tous ces featurings que j'ai fait, de toutes ces rimes que j'ai suées, de tous ces riffs que j'ai tués. D'ailleurs pas même le succès n'a freiné mes ardeurs. J'ai toujours kiffé être invité par des rappeurs avec ou sans disque de platine en fonction du feeling. Je serai toujours actif sur mixtape et compile parce que j'ai le rap dans le sang. Le rap m'a bercé, le rap m'a percé au plus profond de moi. Tu le ressens, moi j'ai que ça, j'ai pas le bac, j'ai qu'un niveau de troisième. Mais malgré mes échecs scolaires, ma nouvelle vie est une croisière. Et dire que je rêvais juste de passer sur les ondes. 10 ans après, j'ai presque fait le tour du monde. Ma vie c'est du partage, des souvenirs et du voyage. C'est des barres de rire, mais aussi parfois des dérapages. C'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Suisse, la Belgique, le Canada, la Guyane. C'est la Guadeloupe, la Martinique, le Gabon et l'Allemagne. La Réunion, la Corse, l'Italie, le Portugal. C'est l'Espagne et toutes ces villes de province française qui m'ont accueilli les bras ouverts pour me voir en concert. Petite banlieusarde, loin des strass, tout près de l'impasse. Sans le rap, j'aurais sûrement fini buvant la tasse. Aujourd'hui, j'hallucine, je file de ville en ville, DJ Dimi au platine. Et la tournée nous enivre, ma vie c'est mon rap. Et mon rap, c'est un message, mon rap c'est un respect. C'est un posca et puis un lettrage, mon rap c'est du piano. C'est des notes blanches et noires, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'encre noire. Mon rap c'est ma raison de vivre, c'est ma raison de dire au monde que quand on veut, on y arrive, malgré les zones d'ombre. Et je suis contente quand un jeune s'en sort, qu'il montre l'exemple dans le biz, les études ou le sport. Génération 80, on n'a pas fini de parler, non. Vous m'arrêtez pas, on n'a pas fini. fini de brasser. C'est pas facile de s'adapter à toutes ces évolutions. Nos revendications ne passeront pas sans révolution. Pour preuve, tous nos gimmicks se pointent en tête des hits, détrônent la variété, ramènent même du chiffre aux maisons de disques. Petite banlieusarde, au-delà de la musique, j'ai surtout rencontré l'amour du public. Aujourd'hui je lui dois tout ce que je viens de vous décrire. Mes moments fous, mes voyages et tout ce que j'ai au fond des tripes. Mon public, à l'heure qu'il aimeront, chez m'obsède. J'ai peur de retourner dans l'ombre, de pas faire d'autres scènes. J'ai peur que ma plume ne plaise plus, de n'être qu'une artiste de plus qu'on renverra à la rue. J'ai peur d'avoir rêvé de carrière et d'avoir échoué, d'avoir à regarder en arrière et de me dire mais qu'ai-je fait. On est le 13 septembre, il est 7h du mat, et j'ai mon texte sous les yeux. Après tout ce temps, j'avais besoin de vider mon sac, et tout d'un coup je me sens mieux, je me sens mieux. Quoi qu'il arrive, je garderai que le meilleur de tout ça. Peu importe l'avenir, c'est tout ce que je sais faire. Moi, je rap.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Alors. Paris, France, ailleurs.
Non, on en a un tout petit peu parlé. De Paris. Bah, ouais. T'en as parlé tout à l'heure de Paris. T'as parlé voilà, du rapport banlieue-Paris, d'accord. Donc Paris, c'est l'endroit où tu te sens bien ?
À fond. Ah, moi, je ne vivrais pas ailleurs. Enfin, pour l'instant, non. Moi, c'était mon goal ultime, c'était de vivre à Paris. Et
Est-ce que ça, c'est un synonyme aussi de réussite sociale ?
Ouais, je pense. Franchement, faut pas se voiler la face, grave. D'ailleurs, je vis dans des quartiers un peu, à chaque fois, hyper centraux. Enfin, je me raconte un truc à travers le quartier dans lequel je vis. Mais ouais, carrément. Le premier appart que j'ai eu, c'était à République. Et en fait, dans mon salon, quand je penchais ma tête à travers la fenêtre, je voyais la place de la République. Et j'étais en mode, oh, c'est bon, je suis à Paris.
Moi, c'est le fait d'avoir une vue sur les toits parisiens. Ouais. Ça me rassure constamment, parce qu'à chaque fois, ça me rappelle que je suis à Paris. Mm. Et ça me fait beaucoup de bien, donc je comprends très très bien. Est-ce que tu as des envies d'ailleurs ? Et la France aussi, qu'est-ce que ça représente, la France pour toi ? Est-ce que tu es du genre... Je sais pas, moi, est-ce que t'es du genre patriote ? Je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais...
Je me sens hyper française, mais d'origine quand même multiple, en fait. Enfin, moi, mes grands-parents, ils avaient grave des accents et tout, enfin, d'Égypte, quoi, donc... Et puis, ce qu'on mange, enfin, moi, ma mère, elle nous cuisine des plats un peu d'origine tunisienne ou d'Égypte, enfin, c'est des plats orientaux, quoi, donc... Mais en même temps, je me sens vraiment... Ouais, je me sens hyper bien à Paris, je me sens hyper bien en France. Je trouve que c'est un... Enfin, on a des paysages incroyables. Après, moi, par exemple, j'ai pas du tout un truc où j'ai envie de vivre ailleurs. Ni à l'extérieur de Paris, ni en dehors de la France. Franchement, j'ai pas trop ce rêve-là.
Et quand t'as des envies d'ailleurs, ça t'arrive d'avoir des envies d'ailleurs, quand même ?
Ouais, mais je sais pas si c'est géographique du tout, du coup.
T'as pas besoin, par exemple, parfois de rompre avec Paris et genre te retrouver sur une plage en Thaïlande ?
Bah, moi, par exemple, j'ai un endroit en France où c'est vraiment ma petite coupure... C'est en Vendée. C'est une ville en Vendée où, en fait, je me sens vraiment déconnectée du milieu parisien, déconnectée du milieu du cinéma. Tout ce qui compte là-bas, c'est la sérénité et d'être tranquille au bord de la plage. Ouais, ça, c'est mon petit endroit de paradis. Donc, c'est un endroit, en fait, où je connais personne, en vrai. Et en même temps, qui n'est pas complètement isolé. Si, après, j'ai des rêves de voyage. Mais ça, c'est des trucs hyper éphémères. J'ai réalisé d'ailleurs une partie de ces rêves. Genre, j'ai eu de la chance, je suis partie au Japon, c'était un truc de fou. Ou genre là, t'as l'impression que ta vie n'est pas réelle, quoi. Tu sors du métro et tu te dis, mais non. Pareil pour New York. La première fois que je suis allée à... Enfin, la première et la seule fois où je suis allée à New York, vraiment, on se dit, mais c'est pas réel, ça semble pas réel, en fait. Quand t'as pas eu forcément hyper l'habitude de voyager. Et bah, les premières fois où tu voyages et que tu as un peu un imaginaire qui est construit, d'ailleurs à travers des films et tout.
Bien sûr, il y a un truc qui nous dépasse bah, complètement. Tu te dis non. C'est presque un décor parfois. Ouais. Ouais.
Tu te dis attends, je vais me pincer là. En fait, je crois que c'est dur pour moi de répondre à cette question parce que parce que ce serait faux de dire que j'ai pas envie de voyager, j'ai ultra envie de voyager. Et en même temps, moi, je me sens hyper bien là où je suis. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas ce truc de j'ai besoin de m'extirper de là où je suis. Moi, en fait, j'en avais besoin à l'adolescence. Moi, je me suis déjà extirpée, en fait. Donc, moi, c'est bon, c'est bon. Après, ça a été long, hein, parce que je me suis extirpée à 26 ans, quand même. Hein. Donc, je me suis dit, d'ailleurs, que ça n'allait jamais arriver. Mais, donc, en fait, aujourd'hui, c'est des bonus. Après, je prends peu de vacances, en réalité. Hein. Par exemple, être au mois d'août à Paris, j'adore. Je suis seule, chez moi, je me balade, je marche. Solitude, j'adore. Moi, je fais mes journées comme je l'entends. Tu te prends un petit chai latte et tout. Un truc de Paris.
Ah, on m'avait parlé du chai.
Ok. Bon, on tente une dernière.
Ah, on tente une dernière carte, ça roule. Vous voyez, c'est une Indiana Jones, Marlène.
C'est clair. Célébrité.
Ça t'inspire ?
Bah, moi, par exemple, j'ai vraiment grandi avec des idoles, quoi. Ah non, mais moi, folle. C'est-à-dire, je suis passée par plusieurs personnes. Hein. C'est-à-dire, il y a eu Julia Roberts. Donc, j'ai été très attirée par les célébrités. Ça a vachement fait partie de ma vie, de mon quotidien même. Genre, Julia Roberts est gauchère. Donc, moi, il y a un moment, j'ai commencé à être gauchère, quoi. J'écrivais mes cours de la main gauche. Taré. J'avais 13 ans. Voilà ce que ça m'inspire. Donc, en vrai, je pense que j'ai toujours été fascinée par la célébrité. Moi, je pense que j'ai jamais voulu l'être. Ça, c'est clair. Genre, moi, il faut que je sois tranquille, peinard. Moi, il faut pas qu'on m'embête. Moi, si je veux partir pendant 3 mois, faut que personne m'appelle. Enfin, genre, vraiment...
Mais alors, c'est quoi qui t'attire ?
Je sais pas.
Par exemple, est-ce que t'aimerais connaître plein de célébrités ?
Non, ça, je m'en fous. C'est pas intéressant. Je pense que c'est une... En fait, il y avait une fascination, quand même, pour ces stars. Donc, j'avais vachement ça à l'adolescence. J'ai eu ça avec Isabelle Huppert. Bon, après, c'est facile. Elle est impressionnante. Mais vraiment... Je lisais toutes ces interviews. Et puis vraiment, à l'adolescence, j'étais vraiment dans un truc de boulimie de cinéma, de toute façon. Donc, en fait, je crois que ça m'a toujours fasciné ce truc de... En fait, je crois que ce qui me touche là-dedans, c'est aussi un parcours de vie et des destins de vie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, t'as une Julia Roberts qui éclot, t'as une Isabelle Huppert qui éclot, et je crois que c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que telle personne va exploser à un moment donné. Pareil pour Diams. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que... Après, évidemment, tu captes pour plein de raisons. Mais ça, je crois qu'il y a un truc vraiment, vraiment fascinant avec ça, en fait. C'est quoi ? Ils ont un talent en plus ? Ils ont une perception du monde ? C'est quoi ? C'est le courage qu'ils ont de mener des projets ? C'est de la chance. En même temps, si c'était que de la chance, bon... Je crois que c'est une fascination pour des destins, en fait, un peu exceptionnels.
Alors, du coup, je tords un peu le sujet, Marlène, parce que tu vas pas forcément désigner une célébrité, mais tu vas en tout cas désigner ton meilleur espoir pour éventuellement participer également à cette émission. Alors, qui as-tu choisi ?
J'ai choisi une jeune réalisatrice qui s'appelle Emma Benestan, qui est déjà une personne que j'adore humainement. Tu sais, c'est vraiment le genre de personne, tu peux parler pendant 5 heures sans discontinuer et tu refais le monde. Et ouais, c'est quelqu'un en qui je crois énormément. Je pense que là, elle est en tournage de son deuxième long-métrage. Et je pense qu'elle va, beaucoup nous apporter au cinéma français, j'en suis sûre. Et en plus de ça, je suis sûre que tu auras plein de choses magnifiques à raconter avec elle.
C'est top. Merci beaucoup, Marlène.
Merci à toi.